Scheherazade. Chaque fois qu'elle faisait l'amour avec Abara, elle lui racontait une histoire captivante et merveilleuse, comme la reine Scheherazade des mille et une nuits. Même si, bien entendu, contrairement au roi du célèbre conte, Abara n'avait nulle intention de lui faire couper la tête au lever du jour. De toute façon, elle ne restait jamais avec lui jusqu'au petit matin. Elle lui racontait ces histoires parce qu'elle en avait envie, et aussi sans doute pour le réconforter, lui qui devait demeurer cloîtré toute la journée. Mais ce n'étaient pas les seules raisons. Abara supposait qu'elle aimait rester au lit avec un homme et parler avec lui durant ces moments tendres et alanguis qui suivent l'amour. Abara l'avait donc surnommée Scheherazade. Il ne l'appelait jamais directement ainsi, mais dans le petit journal intime qu'il tenait quotidiennement, il la désignait par ce prénom. Les jours où elle était venue, il notait au stylo bille « Scheherazade ». Il résumait aussi les histoires qu'elle lui avait racontées ce jour-là, en s'y prenant cependant de telle sorte que, au cas où quelqu'un les lirait, il n'y comprenne rien. Abara ne savait pas très bien si ces histoires étaient totalement inventées, ou en partie vraies et en partie inventées. Il était incapable d'en juger. Réalité et conjecture, observation et fantaisie semblaient y être intimement mêlées. Par conséquent, il avait décidé de les écouter naïvement, sans trop s'interroger. Après tout, quelle différence cela faisait dans sa situation, qu'il s'agisse de faits réels, de mensonges ou encore d'un savant entre l'un des deux. Scheherazade, en tout cas, avait le don de raconter des histoires qui vous touchaient le cœur. Quel que soit le genre de ses récits, tout ce qu'elle relatait prenait dans sa bouche une saveur particulière. Sa voix, son élocution, son rythme, tout était réussi. Elle savait comment capter l'attention de l'auditeur, l'allécher, l'amener à réfléchir et à échafauder des hypothèses, puis à la fin lui offrir exactement ce qu'il cherchait à obtenir. Sa virtuosité époustouflante faisait oublier à celui qui l'écoutait la réalité environnante, ne serait-ce que pour quelques instants. Disparaissaient alors les soucis ou les souvenirs déplaisants, douloureux, qui avaient résisté avec opiniâtreté, comme un tableau noir lavé à l'aide d'un chiffon humide. Qu'aurait-il souhaité de mieux? Au point où il en était, l'oubli était ce que Abara espérait le plus au monde. Scheherazade avait 35 ans, soit 4 ans de plus que lui. Elle était avant tout femme au foyer, cependant appelée à faire parfois des remplacements comme infirmière, et avait deux enfants qui fréquentaient l'école primaire. Son mari était salarié dans une société. Elle habitait à environ 20 minutes en voiture de chez Abara. Du moins était-ce ce qu'elle lui avait dit. C'était à peu près tout ce qu'il savait sur elle. Il n'avait aucun moyen de vérifier ces informations, mais rien ne lui laissait penser qu'il aurait pu en douter. Elle ne lui avait jamais dit son nom. « As-tu vraiment besoin de le savoir ?» avait-elle demandé. Elle avait raison. Pour lui, de toute façon, elle était Scheherazade. Cela lui était donc égal. De même, elle n'appelait jamais Abara par son nom, alors que bien entendu elle le connaissait. Elle évitait sagement de le faire, comme si le prononcer aurait été de mauvais augure ou malencontreux. Malgré la meilleure volonté du monde, il était impossible de comparer le physique de Scheherazade avec celui de l'héroïne resplendissante des mille et une nuits. Cette femme au foyer provincial était lestée çà et là de quelques bourrelets, un peu comme le mastic qui comble des fentes, et elle n'était déjà plus de la première jeunesse. Elle avait un léger double menton, et des ridules de fatigue s'étaient creusées au coin de ses yeux. Sa coiffure, ses vêtements et son maquillage, sans être vraiment négligés, n'avaient rien de remarquable non plus. Les traits de son visage n'étaient pas laids, mais comme brouillés, et l'impression qu'elle laissait était plutôt floue. Par conséquent, la plupart de ceux qui la croisaient dans la rue ou qui prenaient le même ascenseur ne la remarquaient pas. 10 ans plus tôt, elle avait sans doute été une jolie jeune fille pleine de vie, sur laquelle quelques hommes s'étaient retournés. À un moment pourtant, le rideau était retombé sur cette partie de sa vie, et il y avait peu de chances qu'il se relève. Scheherazade venait deux fois par semaine dans cette maison. Les jours n'étaient pas fixes, et ce n'était en tout cas jamais durant le week-end. Elle devait certainement passer ce temps-là avec sa famille. Elle téléphonait toujours à Abara une heure avant sa visite. Elle faisait quelques courses dans une supérette du voisinage et lui apportait dans sa voiture une petite Mazda bleue. Un modèle ancien, au pare-choc arrière cabossé et aux jantes noires de crasse. Elle garait la voiture sur la place de parking allouée à la maison, ouvrait le coffre, en sortait les sacs de provisions, les transportait jusqu'à la porte d'entrée et sonnait. Abara vérifiait par le judas que c'était bien elle, déverrouillait la porte, ôtait la chaîne et lui ouvrait. Elle se dirigeait alors vers la cuisine et rangeait les provisions dans le réfrigérateur. Puis elle faisait la liste des denrées à apporter lors de sa visite suivante. C'était une ménagère efficace, qui accomplissait sa tâche habilement, sans geste inutile. Pendant qu'elle s'activait ainsi, elle ne parlait presque pas et conservait un visage sérieux. Quand elle avait terminé, tous deux allaient dans la chambre sans dire un mot, comme portés par un invisible courant marin. Scheherazade se déshabillait rapidement et, toujours en silence, rejoignait Abara dans le lit. Ils s'étreignaient sans presque se parler et faisaient l'amour scrupuleusement, comme s'ils cherchaient à mener à bien une tâche qui leur avait été assignée. Si elle avait ses règles, elle utilisait ses mains pour accomplir son devoir. Ces techniques infaillibles, presque professionnelles, rappelaient à Abara qu'elle était une infirmière diplômée. Après l'amour, ils restaient au lit et parlaient. Ou plutôt, elle parlait et Abara l'écoutait, en acquiesçant de temps à autre, ou en lui posant parfois une question. Dès que l'aiguille du réveil approchait de 16h30, elle interrompait net son récit. Pour une raison quelconque, c'était toujours à un moment palpitant. Sautait du lit, rassemblait ses vêtements épars, se rhabillait et s'apprêtait à partir. Elle devait rentrer chez elle, disait-elle, préparer le dîner. Abara la raccompagnait jusqu'à la porte, remettait la chaîne en place et suivait du regard entre les rideaux la petite voiture mal entretenue qui s'en allait. À 18h, il sortait des provisions du réfrigérateur et se préparait un repas sommaire qu'il mangeait en solitaire. À une époque, il avait travaillé comme cuisinier et ce n'était pas difficile pour lui de se faire ses repas. Il les accompagnait de Perrier. Il ne buvait pas une goutte d'alcool, puis regardait un DVD en buvant son café, ou bien lisait. Il aimait les gros ouvrages difficiles, qu'il devait relire plusieurs fois. Il n'avait rien d'autre à faire. Personne à qui parler, personne à qui téléphoner. Pas d'ordinateur et donc aucun moyen d'accéder à Internet. Il ne recevait pas de journaux et ne regardait jamais la télévision. Il avait une bonne raison pour cela. Il allait sans dire qu'il ne pouvait pas sortir. Si, en raison de circonstances imprévues, Scheherazade n'avait plus pu lui rendre visite, il aurait été totalement coupé du monde extérieur, littéralement abandonné seul sur les rivages d'une île déserte. Cette possibilité ne préoccupait pas beaucoup Abara. Si cela se produisait, je devrais composer avec mes propres forces, se disait-il. Ce serait dur, mais je m'en sortirais. Ce n'est pas comme si j'étais réellement seul sur une île déserte. Je suis moi-même une île déserte. Il s'était habitué depuis longtemps à cet état de fait. Même dans la plus complète solitude, il restait maître de lui. Ce qui l'ennuierait davantage, ce serait de ne plus pouvoir parler avec Scheherazade au lit. Ou plus précisément, de ne plus pouvoir connaître la suite de ses histoires. Peu après avoir emménagé dans cette maison, Abara avait commencé à se laisser pousser la barbe. Il avait toujours eu une pilosité abondante. Il souhaitait ainsi, bien sûr, modifier sa physionomie, mais pas seulement. En réalité, c'était surtout parce qu'il n'avait rien à faire. Sa barbe lui permettait de passer sans cesse la main sur son menton, sur ses favoris, au bas de son nez, sensation qui le réjouissait. Et puis, muni de ciseaux et d'un rasoir, il consacrait aussi de longs moments à la tailler. Il n'avait jamais remarqué jusque-là à quel point une belle barbe était un remède souverain contre l'ennui. « J'étais une lamproie dans une vie antérieure », lui dit un jour Scheherazade, alors qu'ils étaient au lit. Elle prononça ces mots l'air de rien, comme si c'était une évidence du genre « le pôle Nord se situe à l'extrême Nord ». Abara n'avait pas la moindre idée de ce à quoi ressemblait une lamproie. Il n'avait donc aucun avis sur le sujet. « Tu sais comment les lamproies mangent les truites ? » demanda-t-elle. Non, il l'ignorait. C'était d'ailleurs la première fois qu'il entendait dire que les lamproies mangeaient des truites. Les lamproies n'ont pas de mâchoire. C'est la grande différence avec les anguilles communes. Ah, les anguilles ont des mâchoires ? Tu n'as jamais regardé une anguille attentivement ? Demanda-t-elle surprise. Il m'est arrivé d'en manger de temps à autre, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'observer leurs mâchoires. Fais-le, dès que tu le pourras. Va dans un aquarium. Les anguilles ordinaires ont des mâchoires avec des dents, mais les lamproies non. À la place, elles ont des sortes de ventouses, grâce auxquelles elles se fixent sur les rochers, au fond des lacs ou des rivières. Puis elles se laissent flotter, balancer de tous les côtés, un peu comme des algues. Abara essaya d'imaginer un groupe de lamproies qui se balançaient comme des algues au fond de l'eau. La scène lui paraissait assez éloignée de la réalité, même s'il savait bien que la réalité était souvent terriblement surréaliste. Les lamproies vivent donc ainsi, mêlées aux algues. Elles restent là, cachées, dans l'attente. Dès qu'une truite passe au-dessus d'elles, elles s'élancent et s'accrochent à son ventre, grâce à leur ventouse. Et comme les sangsues, elles la parasitent. À l'intérieur de leur bouche ventouse, il y a des dents cornées qui effectuent des mouvements circulaires, qui râpent la peau de leur proie et creusent une cavité dans son corps. Puis, peu à peu, elles absorbent sa chair. « Je n'aimerais pas être une truite, » dit Abara. Dans l'Antiquité, il y avait des étangs pleins de lamproies. Les Romains y jetaient vivants les esclaves qui s'étaient rebellés. Ils étaient dévorés par les lamproies. « Je n'aurais pas aimé non plus être un esclave au temps de la Rome antique, » pensa Abara. En réalité, il n'aurait pas aimé être un esclave du tout, quelle que soit l'époque. La première fois que j'ai vu une lamproie, c'était à l'école primaire. Nous faisions une sortie scolaire dans un aquarium, dit Scheherazade. Dès que j'ai lu la description de la façon dont elle vivait, j'ai compris que j'en avais été une, durant une vie antérieure. À vrai dire, je me souvenais parfaitement de tout. Je me revoyais accroché à un rocher, me balançant parmi les algues, guettant la grosse truite qui passerait au-dessus de moi. « Tu te souviens aussi que tu la mangeais ?»« Non, ça, non. »« Tant mieux, » dit Abara. « Mais c'est tout ce que tu te rappelles sur ta vie comme lamproie ? Juste que tu oscillais au fond de l'eau ?»« Il est impossible de se souvenir de tout ce qui vous est arrivé dans une vie antérieure, » me répondit-elle. « Si l'on a de la chance, on a une sorte d'illumination sur un instant particulier. » C'est un peu comme entrevoir quelque chose de tout à fait imprévu par un petit trou dans un mur. Mais cela ne représente qu'une minuscule partie de ce qui existe de l'autre côté. Et toi, tu te souviens de l'une de tes vies antérieures ?
Absolument pas, répondit-il.
À vrai dire, il n'éprouvait nulle envie de se souvenir d'une vie antérieure. Il avait suffisamment à faire avec celle d'aujourd'hui. C'était plutôt agréable au fond de l'eau. C'était plaisant d'être fixé à un rocher et d'observer les poissons qui nageaient au-dessus. Un jour, j'ai même vu une tortue géante. Quand on se retrouve en dessous, elle vous paraît sombre et gigantesque, comme un horrible vaisseau spatial dans Star Wars. Et il y avait aussi de grands oiseaux blancs, avec de longs becs acérés, des tueurs prêts à fondre sur les poissons. Vu du fond de l'eau, ils ressemblaient juste à des nuages blancs qui traversaient un ciel bleu. Et comme j'étais bien caché dans les profondeurs, au milieu des algues, je n'avais rien à craindre.
Et tu peux revoir ces scènes aujourd'hui ? Oui, très distinctement, dit Scheherazade. Je vois la lumière, je ressens la force des courants, je me souviens même de ce que je pensais alors. Je peux parfois m'introduire à l'intérieur de ces scènes.
Dans tes pensées?
Oui. Parce que alors tu pensais?
Bien sûr.
Et que pensent les lamproies?
Les lamproies ont des pensées lamproies, sur des sujets lamproies, dans un contexte lamproie.
Je serais incapable de te traduire tout cela avec nos mots à nous, parce que ce sont des pensées réservées au monde sous-marin. C'est comme les bébés à l'intérieur de l'utérus. On sait bien qu'ils ont des pensées, mais on ne peut les rendre avec notre langage, tu comprends?
Tu veux dire que tu as des souvenirs de l'époque où tu étais dans le ventre de ta mère? Demanda Abara, stupéfait.
Naturellement, répondit Scheherazade avec nonchalance, en relevant la tête. Pas toi?
Non, il ne s'en souvenait pas, lui répondit-il.
Eh bien, je te raconterai ça un jour, ce que c'était quand j'étais dans le ventre de ma mère.
Abara nota dans son journal « Scheherazade, lamproie, vie antérieure ». Si quelqu'un s'avisait de le lire, à coup sûr, il n'y comprendrait rien.